Et l'invité du grand entretien du 7-9 est ce matin le secrétaire général de la CFDT, avec lequel on va évidemment parler de la réforme des retraites. Sur ce sujet, vos questions, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Laurent Berger, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Les réunions se sont poursuivies avec le Premier ministre jusqu'à hier soir. Mercredi, je le rappelle, chaque syndicat a pu dialoguer en tête-à-tête. Hier, donc, c'est l'ensemble des partenaires sociaux qui étaient cette fois réunis à Matignon. On vous a entendu en colère, Laurent Berger, après le discours du Premier ministre le 11 décembre. On vous a senti mitigé mercredi soir après la rencontre en tête-à-tête Premier ministre CFDT. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin après ce nouveau round de négociations ?
Je suis à la fois toujours en désaccord sur le fond sur un certain nombre de sujets. Que je vais expliquer, et en même temps je peux pas dire qu'on n'a pas noté une volonté de dialogue et d'ouverture, parce que ce serait malhonnête de ma part, mais cette volonté de dialogue et d'ouverture, elle a permis sur certains sujets des perspectives d'avancer. Je pense notamment au minimum de pension, Je pense au travail de nuit sur la pénibilité avec un abaissement du seuil pour bénéficier des points de pénibilité. Je pense au dispositif de pré-retraite progressive, et c'est important, y compris dans la fonction publique, où il y a des avancées possibles, mais qui restent à confirmer. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté
c'est
de discussion.
C'est quand même positif, tout ce que vous venez de dire.
Ce que je viens de dire, c'est positif dans la perspective d'un régime universel des retraites qui arrive en place, qui se met en place à horizon, je vous rappelle, 2037. Là où on a un désaccord, et j'en viens à ce désaccord, c'est sur les mesures d'équilibre de court terme, c'est-à-dire sur cet âge pivot dont on peut pas dire hier, on nous a dit on peut continuer à en discuter les modalités, mais enfin on voit bien que de toute façon la recherche d'équilibre à court terme et la réforme paramétrique est toujours dans le viseur.
On va y venir tout de suite, donc sur l'âge pivot, 64 ans, on voit donc, on l'a entendu dans les journaux de France Inter ce matin, qu'il pourrait être aménagé de différentes manière, peut-être modulée selon la longueur des carrières, selon la pénibilité. Dès lors, l'âge pivot ne serait plus le même pour tous ni pour tous les métiers. Peut-être peut-il aussi être reculé dans le temps, lit-on dans la presse ce matin. Bref, il peut y avoir beaucoup de cas particuliers, beaucoup d'aménagements. Est-ce que ces éléments-là sont positifs pour vous, Laurent Berger ?
Monsieur de Morand, je vais d'abord vous dire une chose, et je ne suis pas le seul à le dire. La CFDT n'est pas la seule à le dire. Les mesures d'équilibre de court terme ne sont pas absolument nécessaires. Alors je sais que c'est pas, ça peut paraître anormal de dire ça parce que certains nous font croire, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Hervé Lebras hier dans Le Monde, Antoine Bozziaud, Monsieur Pisani-Ferry, etc. Il y a plein de gens qui sont des économistes, qui disent que les mesures de court terme ne sont pas absolument nécessaires aujourd'hui. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est en fait une bonne vieille réforme classique des retraites, où on va demander aux gens de travailler plus longtemps. Travailler plus longtemps, les gens le font déjà. C'est déjà prévu par la loi Touraine jusqu'en 2035. Donc ça, c'est déjà le premier désaccord de fond. Je tiens à le dire parce que j'ai pas envie qu'on puisse nous emmener sur le terrain en disant on peut aménager un dispositif qui en lui-même dès le départ est pas juste.
Donc pour être très clair, vous redites ce matin, je veux que l'âge pivot soit retiré de cette réforme. Vous le redites ?
Oui, bien sûr. Je veux que l'âge pivot soit retiré de cette réforme. Vous voyez, je le redis devant vous, mais c'est personne ne peut être surpris de ça. Pour une raison simple, c'est que c'est injuste. C'est injuste, on va demander dès 2022, et je peux vous assurer que plein de gens en prennent conscience, on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, c'est la mesure qui cristallise à juste titre le plus d'opposition. Plein de gens vont être impactés, on a plein de témoignages de gens qui comptaient arriver en retraite en 2022, 2023, 2024, et qui vont travailler 4 mois, 8 mois, 1 an supplémentaire. Et donc, ça c'est clair pour nous. Et après, on nous parle d'aménager les fins de carrière, cet âge, avec des dispositifs selon les carrières. Mais de l'autre côté, on ne nourrit pas le compte pénibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que les pénibilités les plus fréquentes, le travail de nuit, c'est vrai qu'il y a eu un effort. Et moi, je le dis quand il y a eu des efforts. Mais sur les autres pénibilités, c'est quoi ? Lorsque vous avez des gestes répétitifs, des postures pénibles, lorsque vous avez des ports de charge lourdes, vous avez un risque chimique, tout ça n'est pas mesuré et ne permet pas d'avoir des départs anticipés, sauf si vous êtes atteint de, d'une maladie.
Et donc, mais nous, ça, là-dessus, vous pouvez encore avancer ?
Non, on a senti
c'est
hier...
C'est à portée de main ou c'est fini ?
Non, c'est jamais fini quand, tant que le match n'est pas fini, mais on a senti hier beaucoup, beaucoup de résistance, voire de désaccord, pour aller vers la mesure de ces pénibilité-là, qui permettrait d'avoir des, un comptage de points.
Laurent Berger, vous êtes un syndicaliste confirmé. Quelle est votre conviction intime désormais ? Est-ce que le gouvernement va maintenir, quoi qu'en pense la CFDT, l'âge pivot ?
Ben, j'espère que non, mais en tout cas, j'ai senti hier une grande détermination à le mener, à le faire. Mais je vous le dis, ça va monter très très fort au mois de janvier, en désaccord sur cet âge pivot. Et la CFDT, à partir du 6 janvier, elle va interpeller les parlementaires, elle va aussi avoir des actions de mobilisation, spécifiquement sur cette action-là et sur la question de la pénibilité, parce qu'on ne peut pas accepter cette mesure injuste qui est d'abord une mesure de court terme. Et je le redis, parce qu'on ne s'est pas assez
mais
dit...
Mais même s'il y a tellement d'exceptions pas... qu'il y aura autant d'âge pivot qu'il y a quasiment de Français...
Mais vous savez, je vais vous prendre un exemple très précis, très concret. Un travailleur de l'agroalimentaire, hier, m'a saisi encore, en disant, moi, en 2024, je pouvais partir en retraite. J'ai travaillé depuis 18 ans. Là, j'ai 18 ans. J'ai tous mes trimestres. Je pouvais partir en retraite. Là, si je pars pas, si je pars à 62 ans, je vais prendre un an de décote, de malus, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai rempli mon contrat avec la société, avec les autres générations. J'ai travaillé le nombre de trimestres requis. J'ai le droit à ma retraite. Et je ne vais pas pouvoir partir. Ce travailleur-là, puisqu'on ne peut pas lui reconnaître sa pénibilité, qui est une pénibilité de gestes et postures, parce qu'il découpe la viande, eh bien, ce travailleur-là, y a aussi, on ne peut pas aujourd'hui avoir un dispositif qui l'exonère de cette mesure, puisque de toute façon, on ne lui mesure pas sa pénibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire on va pouvoir aménager, mais si de l'autre côté, on ne nourrit pas la pénibilité, la reconnaissance de cette pénibilité, eh bien, on n'arrivera pas à le faire.
Je rappelle le raisonnement tel qu'il a été formulé par Édouard Philippe. Le gouvernement dit que l'âge pivot entrera en vigueur, sauf à ce que les partenaires sociaux trouvent d'eux-mêmes une alternative pour équilibrer les comptes. Vous en avez, vous avez mis sur la table deux propositions. La première, c'est une hausse des cotisations. L'exécutif a répondu qu'il n'était pas question de faire baisser par là le pouvoir d'achat des Français. Le débat est-il clos, Laurent Berger, ou est-il encore sur la table, cette hypothèse-là que
d'abord,
vous avez proposée?
Je vais vous dire, la première fois que j'ai sorti cette idée des cotisations, c'est une vieille idée, c'était aussi parce que j'en avais un peu assez d'entendre que comme il y a un déficit, bah faut demander aux gens de travailler plus longtemps. Au bout d'un moment, on a l'impression que, en fait, les efforts, c'est pour... Et donc, j'ai dit, dans un système paramétrique, puisque vous vous situez dans cette logique-là, c'est la réforme, la première réforme qui va être faite des retraites par ce gouvernement, c'est une réforme paramétrique. Et je dis, il y a d'autres leviers, il y a les cotisations. Ça a eu une flambée de contestation du patronat notamment. Hier,
Est-ce que c'est illégitime de dire on ne veut pas baisser le pouvoir d'achat des Français ?
Non, mais moi je parlais des cotisations patronales. Je rappelle que un certain nombre d'entreprises, depuis maintenant quelques années, ont bénéficié d'un certain nombre d'aides aux entreprises pour restaurer leurs marges. Donc je parle de ça, des cotisations entreprises. Mais hier, le Premier ministre a dit qu'on pouvait imaginer un cocktail de mesures. Et il a évoqué notamment cette possibilité de cotisation. Moi, je vais vous dire...
Donc ça aussi, c'est encore sur la table.
Oui, c'est encore sur la table, mais je vais vous dire. Le vrai sujet, c'est est-ce que... On veut ce système universel des retraites. Et je le redis, la CFDT le veut. Veut un système universel des retraites. Et veut le nourrir de mesures sociales. Pénibilité, retraite progressive, prise en compte des transitions pour les enseignants, pour les infirmières, pour les aides-soignants, etc. Mais ils sont en train de le pourrir, ce système universel, en tout cas de cette réforme du système universel, avec une mesure purement paramétrique budgétaire de court terme, qui, encore une fois, ne se justifie pas. Je veux le dire encore une fois parce que je ne veux pas me laisser aller sur un terrain qui n'est pas justifié. Et après, les mesures d'équilibre nous intéressent à moyen et long terme. Ça, c'est vrai. Et on a toujours pris nos responsabilités. Mais pour ça, il faut confier à la gouvernance la responsabilité de avoir des mesures, peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, qui permettront, pour certains, d'allonger la carrière, pour d'autres, de la raccourcir parce qu'il y a des pénibilités. Mais arrêtons d'être pris dans un piège assez techno et assez comptable qui voudrait dire que la première réforme à faire et le premier objectif, ce serait cet âge d'équilibre. Ça ne se justifie pas. dit pas.
Pourrir, le mot est fort. Cette réforme paramétrique vient pourrir la réforme,
Laurent Berger ? Oui, parce que, vous savez, cette réforme, elle prend son essence, notamment dans les travaux d'Antoine Bozio et dans les travaux aussi que la CFDT a fournis depuis de nombreuses années. Depuis 2003, on a commencé à y réfléchir avec François Chérec, à cette réforme et avec d'autres. C'est une réforme de justice, parce que le système actuel, il n'est pas juste. Il est mité de profondes inégalités. Et la promesse qui a été faite par le président de la République, c'est de mettre en place ce système universel pour une réforme beaucoup plus juste, plus lisible. Un système beaucoup plus juste, beaucoup plus lisible. Et là, la première réforme, cette réforme-là, elle arrive en 2037. Il y a quelques mesures, il faut être honnête, et je le suis, qui arrivent dès 2022 comme minimum contributif. Et le minimum de pension à 1000 euros, et c'est pas anodin. Mais le reste, c'est plutôt 2037. Par contre, ce qui arrive dès 2022, c'est une réforme comptable. Et ça, c'était pas dans la promesse. Moi, vous savez, je suis saisi de beaucoup de militants CFDT qui me montrent cette vidéo de M. Macron en avril 2019. Où il dit, c'est pas possible d'aller vers 64 ans, de faire travailler des gens qui ont déjà rempli leur part de contrat, de les faire travailler plus longtemps, etc. Moi, je souhaite qu'on s'en tienne à cette promesse.
Oui, mais depuis, il y a eu un rapport du corps.
Oui, mais c'est le rapport du corps
qui a montré que des déficits étaient possibles sur une fourchette large,
oui,
Laurent
Berger. Le rapport
du
corps,
c'est ça ce qui a changé, non, depuis?
Non, ça, c'est pas ça qui a changé. C'est une vision politique de la réforme des retraites qui a changé, je crois.
Alors expliquez-la.
Eh bien, cette vision politique, c'est le fait que il y en a certains qui préfèrent avoir une réforme budgétaire que systémique et que pour créer le régime universel. Mais je vais vous dire, le rapport du corps, il montre quoi? Une faiblesse des recettes. Pas une augmentation des dépenses. Il n'y a pas une flambée des dépenses de retraite. Il y a une faiblesse des recettes. Et cette faiblesse des recettes, elle vient de qui? Elle vient d'abord de la puissance publique. Parce que moins de cotisations, parce que on supprime des emplois de fonctionnaires, parce que pas compensation des mesures, par exemple, fiscales qui ont été prises et qui ont un poids sur les cotisations versées par les entreprises ou par les salariés. Et donc, je crois que sur le dos du régime des retraites, on veut faire une économie à l'État. Et ça, il n'est pas question. Les efforts, on les a faits. On pourra éventuellement en faire d'autres. Ce n'est pas un sujet de tabou pour la CFDT. Mais le moment, là, il est vraiment de créer ce système universel pour avoir un système de retraite beaucoup plus juste et pas de faire des mesures d'économie.
On va donner la parole tout de suite aux auditeurs de France Inter qui sont nombreux ce matin. Une question rapide avant, Laurent Berger. Est-ce que la CFDT cheminot va appeler à la trêve pour Noël?
Je le souhaite. Ils sont en train de consulter leurs équipes ce matin. Et il y aura des réponses dans la journée. En tout cas, moi, je le souhaite et je les appelle à le faire.
Mais vous ne le savez pas encore aujourd'hui?
Non, parce que
leur
démocratie interne fait qu'ils se consultent aujourd'hui. Mais je le dis, je souhaite qu'il y ait une trêve à Noël. Je l'ai dit très tôt, tout simplement parce qu'il faut que chacun puisse circuler librement pour faire ce qu'il a à faire pendant les fêtes.
Marc est en ligne. Marc qui nous appelle de Paris, que je salue.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci de prendre mon appel. Bonjour Monsieur Berger. Voilà, j'ai une question assez simple. Depuis le 1er janvier 2019, est entré en vigueur un accord que la CFDT a signé à l'Agirc-Arrco et qui prévoit un âge pivot, enfin plus exactement, qui prévoit que les personnes qui ont le taux plein à la sécurité sociale ne peuvent pas partir sans une décote s'ils n'attendent pas un an. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre votre attitude. D'ailleurs, la CFDT a essayé de renégocier cet accord en se rendant compte qu'il était très mauvais, et le MEDEF a dit c'est trop tard, c'est signé. Tout ça est documenté dans les échos, les articles de Madame Leila de je ne sais plus quoi.
Allez, allons-y.
Voilà, alors la question que je me pose, demain, quand vous vous rendrez compte que votre accord au système par points qui a été désastreux, par exemple, en Suède, quand vous direz « Ah, on veut renégocier », eh bien, le ou les gouvernements successifs vous diront « Trop tard, c'est voté ».
Bien compris, Marc, bien compris. Laurent Berger vous répond.
Non, mais cet accord dont vous parlez, qui concernait les retraites complémentaires en 2015, il faut rappeler qu'à ce moment-là, la retraite complémentaire des cadres, en 2019, on ne pouvait plus verser le mois de décembre, en termes de prévision budgétaire. Et on ne peut pas s'endetter dans ce système-là. En 2024, on ne pouvait plus verser pour l'ensemble des salariés du privé, on ne pouvait plus verser la retraite sur toute l'année. Donc, on a instauré cette décote, mais c'était provisoire. C'est les deux premières années ou les trois premières années, selon les cas.
Et pas toute la vie.
Et pas toute la vie. C'est totalement différent. Et c'est différent pour cette raison-là, et c'est différent aussi parce que le régime était en grave difficulté financière dans les projections. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les projections qui sont faites sur les retraites par le corps.
En ligne depuis Montrouge, Isabelle est sur France Inter. Bonjour, on vous écoute Isabelle.
Bonjour, donc j'ai une question toute simple. Je voulais connaître la position de Monsieur Berger quant à la remise en cause possible des 25 meilleures années dans le calcul des retraites. Je vois pas en quoi ce système des 25 meilleures années est pénalisant. Et pour les personnes qui, comme moi, ont été licenciés à l'âge de 45 ans et qui ont retrouvé du travail, mais pas du tout dans les mêmes conditions que celles que j'avais précédemment, eh ben, je trouve que ce système-là serait vraiment du coup très injuste. Voilà.
Merci Isabelle pour cette question qui concerne les salariés du privé, dont les pensions sont aujourd'hui calculées sur les 25 meilleures années de salaire. Dans la future réforme par points, ce serait sur l'ensemble de la carrière et non pas les 25 ans. Laurent Berger vous répond.
Les 25 meilleures années, c'est très favorable pour les personnes qui ont des carrières ascendantes. Pour des personnes qui ont des carrières ce qu'on appelle plates, c'est-à-dire qui restent au même type de rémunération, ça n'a pas d'avantage particulier. Et ce qu'on veut, nous, dans le futur système par points, c'est qu'on prenne en compte les périodes de chômage beaucoup mieux qu'on les prend en compte aujourd'hui, les périodes de parentalité qui font qu'on s'arrête, les périodes de coupure, qu'il y ait des points potentiellement supplémentaires lorsque on connaît des interruptions en milieu de carrière, lorsque on connaît des pénibilités, etc. Et quand on fait, on prend tout ça en compte, on s'aperçoit que pour nombre de travailleurs du privé, les 25 meilleures années, c'est pas le meilleur des calculs.
On est en ligne maintenant avec Valérie.
Oui.
Bonjour.
Bonjour à vous.
On vous écoute, Valérie, on vous écoute,
oui,
allez-y.
Merci. Alors, Monsieur Berger vient de répondre partiellement. J'ai une question. Il y a juste une corporation qui n'est pas représentée dans les mouvements de grève. Merci au syndicat de défendre effectivement les retraites du public et du privé. Les privés, ce sont aussi les entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui prennent le risque de maintenir une activité toute leur vie, mais qui effectivement aussi, des fois, ont des carrières fractionnées, comme pour moi en tant que conjointe collaboratrice bénévole les premières années. Nous avons des salaires qui, des fois, reste au SMIC toute une vie. Qu'en est-il de nos retraites quand nous n'avons pas eu de quoi payer des complémentaires retraites?
Merci pour cette question. Laurent Berger vous répond.
Deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'hier, il y a eu des garanties apportées aux travailleurs indépendants et notamment aux artisans et aux commerçants. Je suis pas le mieux placé pour en parler. Je connais moins ce sujet-là. Par contre, juste pour dire que on a aussi des mobilités aussi, vous l'avez très bien dit, des gens qui changent de statut tout au long de leur carrière. Et dans le système actuel des retraites, comme il y a 42 régimes, pour calculer la retraite quand on a été un peu indépendant, un peu travailleur, salarié, eh bien, c'est très compliqué et c'est très pénalisant. Et le système par points, il permet justement d'avoir chaque euro cotisé rapporte la même chose, quel que soit le statut dans lequel on le cotise. Et puis, il y a des situations spécifiques pour les artisans et les commerçants qui sont, je crois qu'il y a des compensations qui vont être apportées en termes de cotisation, mais les organisations employeurs ont défendu ça hier.
Faute d'accord entre les partenaires sociaux, la négociation, l'exécutif a repris la main dans la négociation sur l'assurance chômage et vous en étiez sorti là aussi extrêmement en colère. Est-ce qu'un scénario de ce type est possible sur la réforme des retraites?
Ben c'est un peu celui qui a été dessiné par le Premier ministre lorsqu'il a présenté la retraite.
Mais c'est comme ça que ça va se finir selon vous?
Non, parce que on n'est pas sur la même. C'est pas les retraites, ça concerne bien au-delà, comme des seuls partenaires sociaux. Dans la future gouvernance, il est prévu qu'il y ait les partenaires sociaux, mais aussi la représentation du Parlement. Donc, mais le risque, c'est celui-là, c'est-à-dire que si c'est pour jouer un jeu de dupes, mais que tout soit fixé avant même, et c'est un peu ce qui nous est proposé aujourd'hui, il n'est pas question de ça. Donc, faut bien comprendre que la CFDT, elle veut ce régime universel, elle veut un pilotage, elle veut des garanties sur la valeur du point. Il y a des choses qui ont été avancées là-dessus. Donc en fait, le système qui est dessiné sur le régime universel, il n'est pas mauvais. Il est insuffisant aujourd'hui en termes de pénibilité, de retraite progressive, de minimum contributif, mais il n'est pas forcément mauvais. Il faut travailler les transitions pour un certain nombre de secteurs professionnels, regarder les cas particuliers, arrêter de faire des simulateurs qui ne sont pas des simulateurs, etc. Mais le problème, c'est qu'on veut d'abord instaurer le fait qu'on travaille, qu'on ait ce tâche pivot, et ça, ça va durablement rester. Et c'est ça qui nous pose problème en première intention. C'est ces tâches pivot. Et donc, d'abord, il y a un conflit. Il y a un désaccord sur le fait que il n'y a pas besoin de ces économies de court terme et que ça vise, ça donne un vice à la.
Mais s'il y a énormément d'avancées sur des points cruciaux de cette réforme, est-ce que à la fin c'est pas ça un compromis? On gagne pas sur tout.
Non, mais moi, vous savez, moi, là-dessus, on sait ce que c'est un compromis.
Ah, oui,
on sait que pas.
C'est pour
on sait
ça qu'on
peut pas gagner sur tout.
Oui.
Mais si l'idée,
vous pouvez perdre sur l'âge pivot et gagner sur d'autres points.
Oui,
est-ce que ça va pas se finir comme ça?
Non, mais parce que la réforme, le système universel qui a été promis, c'était de travailler sur la pénibilité, sur tous ces sujets-là. Et là, il y aura des compromis. On le sait. Et il y a déjà des choses qui ont été obtenues, qui sont importantes, comme la première heure travaillée, cotisée, donne des droits, etc. Mais il y a d'abord cette logique budgétaire avec cet âge pivot. Et ça, on a un désaccord de fond. Et je respecte beaucoup le Premier ministre.
On peut perdre une négociation.
Non, mais là, c'est
ou en tout cas ne pas gagner sur tout.
On peut perdre à la fin.
Qu'est-ce
on
ne
sait pas quelle sera la fin du match.
Qu'est-ce
qui
se passera à ce moment-là?
Bah,
si l'âge pivot est pas retiré, qu'est-ce que vous allez faire?
On continuera d'exprimer notre désaccord. Et puis, à la fin, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir un compromis. On peut trouver un compromis, et je le souhaite. Et le Premier ministre, hier, a essayé d'ouvrir la porte à cela. Donc, on l'entend. Et donc, on va s'investir en janvier dans les discussions.
Qu'est-ce que vous allez faire? On a des auditeurs qui demandent comment
janvier,
on s'oppose sans faire grève, comment on s'oppose sans manifester tout
janvier,
le temps. Vous allez faire quoi?
En janvier, on va
vous dites proposer... ça va monter très très fort. Quoi?
On va aller interpeller les parlementaires dès la première semaine de janvier. Parce que je crois qu'ils ont un rôle, y compris à se faire entendre pour que ils puissent pas accepter cette mesure d'âge pivot. On va potentiellement proposer aux citoyens de se mobiliser, y compris pourquoi pas un samedi. On y réfléchit juste avant.
Sous quelle forme?
Ça pourrait être des rassemblements, ça peut être des choses plus festives que ce qu'on fait habituellement. On va regarder ça juste avant l'examen du projet de loi en Conseil des ministres. Je crois qu'il faut faire monter cette idée que demander de travailler plus longtemps à ceux qui ont déjà leur carrière complète quand ils vont arriver en retraite, c'est pas acceptable.
Le quotidien Les Échos, mercredi, faisait état des critiques qui vous seraient formulées en off au sein de l'exécutif et de la majorité. Laurent Berger, vous seriez sorti du syndicalisme au sens strict, vous préférez désormais le pouvoir de vivre au pouvoir d'achat, vous vous alliez avec Nicolas Hulot. Bref, vous faites presque de la politique, en tout cas pas seulement du syndicalisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Deux choses. D'abord, on voit bien que c'est parti très fort là-dessus, ça continue. Moi, ça me touche pas. Donc,
vous les entendez vous aussi ces critiques?
On les entend, on nous les rapporte aussi, et on sait d'où ils viennent. Et ils viennent de gens qui ont toujours considéré que le syndicalisme, c'est les corps intermédiaires, tous ceux qui depuis un certain nombre de mois.
Non, mais qui les formule? Vous dites ça vient de gens.
Individuellement, j'en sais rien et j'ai pas tellement envie de le savoir. Mais vous savez, si les reproches, c'est qu'on s'occupe aussi des questions écologiques, qu'on s'occupe aussi des questions de pauvreté, des questions de démocratie et d'avenir de notre modèle de développement, je les assume parce que ça a toujours été ce qu'a fait la CFDT. Deux, recevoir des critiques de gens qui ne se sont jamais investis syndicalement, rarement dans des associations, ça me laisse assez de marbre. Donc, vous savez, la CFDT, elle est sur le fond des sujets. Le reste, pour nous, c'est de l'écume. Mmh. Eh ben, on assume, on se fait critiquer un peu de toutes parts. Hein, vous savez, on a entendu Madame Le Pen nous dire que la CFDT, c'était plus vraiment un syndicat. On entend aujourd'hui certains l'environnement de l'exécutif le dire apparemment. Tant pis. On entend aussi l'extrême gauche nous dire qu'on serait plus un syndicat. On est une organisation syndicale. On est la première organisation syndicale.
Mais est-ce qu'il y a des problèmes d'ego?
Que ça plaise ou non?
Est-ce qu'il y a des problèmes d'ego, de relations personnelles, de caractère, de sympathie ou d'antipathie? Entre vous, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, ça joue quand même, non, les relations humaines?
Oui, je vais vous dire, avec le Premier ministre, on a un désaccord fort, vous l'avez encore entendu ce matin. Mais il y a des discussions correctes et il n'y a pas de problème de combat de coq, d'ego, je ne sais quoi. Avec le président de la République, c'est la même chose. On pense pas forcément la même chose sur tout. Et alors, c'est ça la démocratie. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique-là. Il n'y a pas un sujet Macron-Berger, Berger-Philippe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est un sujet de fond. Et le sujet de fond, c'est est-ce qu'on veut de la justice sociale dans ce pays ou est-ce qu'on considère que ce pays doit être simplement gouverné avec la logique de règles arithmétiques. C'est pas possible. Donc maintenant, pour revenir à la question des retraites, il y a ce désaccord profond sur l'âge pivot, sur les mesures d'équilibre de court terme. Il faut qu'on trouve une voie de sortie. On est ouvert à la discussion pour trouver une voie de sortie, mais on ne mettra pas nos idées dans la poche.
Laurent Berger, merci.
Merci.
Secrétaire général de la CFDT. Bonne trêve de Noël, donc, puisque c'est la ligne de la CFDT.
Merci, vous aussi.
Il est 8h46. Le carrefour du 7-9 est à suivre.